SBS Audio is supported by advertising.
Car in need of some soapy lovin'? Head to Happy Wash, where every fifth wash is free on the OTR app. With a scratch-free guarantee, it's Happy Wash, Happy Car at OTR.
Vous êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, deuxième partie de notre épisode consacrée à l'ancien Premier ministre travailliste Bob Hawke, nous allons voir comment, au fil de sa carrière d'abord syndicale, il va se forger une image à l'échelle nationale qui va lui permettre, quelques années plus tard, d'entrer, avec succès, dans le monde de la politique. Très bonne écoute à tous. Alors, on l'a dit plusieurs fois maintenant, Bob Hawke, c'est un très grand négociateur, à la fois donc pour apaiser des crises quasi internationales ou des discussions beaucoup plus sérieuses avec le patronat et les syndicats, les ouvriers, etc., etc. Et vous évoquiez l'un des travers de Bob Hawke, à savoir son appétit assez important pour la gente féminine. Visiblement, il a été aussi pas mal porté sur la bouteille et certains disent d'ailleurs qu'une partie de son succès en matière de négociation syndicale est due également à sa capacité à pouvoir boire beaucoup d'alcool. Et peut-être à la différence d'autres, vers la fin des années 70, Bob Hawke va reconnaître publiquement qu'il est alcoolique et faire en sorte de ne plus boire.
Alors ça, c'est un réel problème de Bob Hawke, peut-être comme un certain nombre de personnes qui travaillent énormément. Quand je dis énormément, c'était quelqu'un qui était tout le temps au travail, qui dormait très peu, qui devait avoir une vie de famille compliquée parce que, effectivement, il trompait sa femme, parce que il vivait énormément. L'alcool était un peu son refuge et un exutoire. Et lui-même en a parlé à de nombreuses reprises. Pour voir que l'Australie des années 60-70, c'est un milieu quand même demeure encore très blanc, très macho, très viril. Ça change progressivement. Quand vous êtes le représentant de tous les syndicats, il y a aussi une culture de classe qui va avec. Et cette culture de classe, Bob Hawke, en tant que, si vous voulez, boursier de la très prestigieuse Rhodes Scholarship, si vous arrivez en costume, cravate, en mode petit avocat, col blanc, ça risque de mal passer. Donc, ton moyen, c'était pas non plus qu'un moyen, hein, c'est quelqu'un qui était à l'aise dans la classe ouvrière, qui était à l'aise avec tout le monde, du plus humble au plus riche, et qui était très convivial. Effectivement, il a été conduit aux excès de la boisson assez rapidement. Et de mémoire, en 79-80, effectivement, il y a cette interview qu'on peut encore visionner sur YouTube. Gros succès à l'époque parce que, en fait, il a su évoluer avec le temps. Un homme qui verse une larme, qui pleure à la télévision dans les années 70 parce qu'il boit trop, il se serait fait tomber dessus. Là, au début 80, on voit que c'est un homme responsable, qu'il parle de ses addictions, qu'il parle de son problème, et en fait, ça autorise de nombreux Australiens à le suivre. Et c'est très bien vu par le public australien, de gauche comme de droite à l'époque. Et il fait une promesse en disant, ben voilà, le jour où je m'engagerai en politique fédérale, vous pouvez compter sur moi pour ne pas boire. Bon, il respectera pas tout à fait sa promesse, mais enfin, c'était un peu le coming out sur l'alcoolisme, et ça a été très bien vu par les Australiens. Il a fait énormément de travail sur lui-même pour moins boire. Parce que je crois qu'en 79, de mémoire, il s'était effondré. Enfin, c'était un alcoolique vrai et dur, quoi. Là, vous avez raison de le rappeler, c'est que ça l'a pas toujours desservi, dans la mesure où, effectivement, il avait cette capacité à réunir tout le monde, patronat, syndicat, ouvrier, politique, représentant de la société civile, et réunir tout le monde, parler à tout le monde, et développer un sens de confiance. Les gens avaient confiance en Bob Hawke, et ça l'a beaucoup servi. Et l'alcool a été très utilisé pour faire avancer un bon nombre de négociations, effectivement.
Ben, je disais tout à l'heure qu'il y a une marque de bière qui est produite d'ailleurs pas très loin de là où j'habite à Sydney qui porte son nom. Et je sais que l'une des images qu'on peut trouver le plus facilement sur Internet ou sur YouTube de Bob Hawke, parce qu'il y en a loin d'y en avoir qu'une seule, c'est une image de lui où il vide cul sec une pinte de bière. Il était aussi connu pour ce talent, si j'ose dire. Donc c'était quand même un vrai problème, quoi.
Ça, il a fait jusqu'à très tard dans sa vie. D'ailleurs, si vous allez à Oxford aujourd'hui, il détient encore le record, je crois, pour l'impérial. C'est-à-dire, c'est de mémoire, c'est l'équivalent de deux ou trois pintes dans un énorme verre. Il y a une photo de Bob Hawke à côté, d'ailleurs, de la mère de la reine d'Elisabeth II, qui elle aussi avait bu cul sec une bière dans ce pub. Bref, c'est pas une légende, c'est quelqu'un qui avait une capacité d'ascension d'alcool, pour dire phénoménale ou effrayante, suivant de quel côté on se place, et qu'il a gardé toute sa vie. On voit que dans ses 80 ans et au-delà de ses 80 ans, quand il allait au match de cricket ou de rugby, souvent les caméras s'arrêtaient sur lui et toute la foule acclamait Bob Hawke, Bob Hawke, parce que c'est, qu'on soit de gauche ou de droite, c'était quand même une légende australienne. Et effectivement, il se donnait un grand plaisir de prendre son verre et de le vider cul sec, quoi.
Voilà. Ouais. Alors, vous l'avez dit, cette confession télévisée a été très appréciée du public et il avait dit que elle serait liée à son entrée en politique et justement, elle intervient peu de temps après. Alors, au tout début de notre entretien, j'ai expliqué que dès l'âge de 18 ans, il a rejoint le Parti travailliste et à vrai dire, il a même dirigé pendant quelques temps au cours des années 70. Mais c'est donc vraiment à partir de la décennie 80 qu'il s'engage à fond dedans et qu'il renonce d'ailleurs à ses activités syndicales. Et en fait, après, ça va aller très vite. Il est candidat donc aux élections législatives dans une circonscription assez facile. Enfin, c'est un fief du Parti travailliste qui se trouve à Melbourne. Il est accessoirement à cette époque-là très très populaire et à ce moment-là il n'est que député, mais tout de suite quasiment il va avoir envie de prendre la tête du parti et plutôt de la ravir à celui qui le dirige à cette époque-là.
On peut se dire, il arrive au Parlement en 80 et en 83 il devient Premier ministre, quel succès, quelle rapidité. Mais en fait on peut pas dissocier son rôle à la CTU, son rôle politique. Très tôt, en fait, il avait été tenté par un mandat fédéral. Il s'était présenté dans une circonscription. Alors là, vous allez tester les limites de ma connaissance de Hawke, je crois, en 63. Il s'était pris... il s'était bien défendu, mais enfin, il avait perdu. Et après, pendant plusieurs fois, le Parti travailliste lui avait proposé de rejoindre ses rangs pour justement des élections, des circonscriptions. Et il avait refusé. Ouais, il expliquera que il avait regretté de ne pas s'être propulsé en politique avant. Il considérait que son travail en tant que chef de l'ICTU faisait avancer les choses pour les travailleurs australiens. Il en tirait une grande satisfaction personnelle. Il avait une grande liberté parce qu'il était patron. Mais il se rapproche du Parti travailliste. De mémoire, en 75, il en devient le président. Alors, il pouvait être président de parti, mais pas élu, parce que la structure du Parti travailliste australien est telle qu'elle était à l'époque. Les syndicats ont un rôle très important, et ce sont grosso modo les syndicats qui encouragent les politiques qui les représentent à faire telle et telle politique. Et donc à l'époque, il est lié au Parti travailliste, il en est membre, mais il n'est pas encore dans la politique active au sens où il n'est pas au Parlement. Il se présente en 81 dans une circonscription facile, vous l'avez rappelé, et très rapidement, là on est après des années de gouvernement de droite en Australie, d'une droite assez dure, celle de Malcolm Fraser, et à l'époque, vous avez un leader du Parti travailliste qui attend qu'une chose, c'est d'être élu Premier ministre. Et ce leader s'appelle Bill Hayden. Et Bill Hayden, ça fait des années qu'il est le leader de l'opposition et qui se dit c'est super, aux prochaines élections, probablement en 83, je vais devenir Premier ministre. Et en fait, il se fait rattraper par Bob Hawke, qui, à cette époque, est une tête connue de tous les Australiens, quelqu'un qui a un bon capital public, si vous voulez, et que les gens apprécient. Et donc, Bob Hawke challenge le leadership de Bill Hayden, parce que dans le système de Westminster, grosso modo, il faut la majorité de votre parti ou des représentants élus de votre parti pour que vous soyez le chef de ligne. Il fait ce premier challenge. Mais, les barons du Parti travailliste de l'époque, en 82, tout début 83, sentent le vent tourner et se disent « Oh, c'est peut-être pas le bon cheval. C'est peut-être pas le bon cheval. » Et on voit que la popularité de Bob Hawke ne décroît pas et qu'au contraire, elle s'accroît jour le jour. Donc, autant supporter le bon cheval parce que si le bon cheval gagne la course, on a tous un poste. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont lâché le pauvre Bill Hayden, qui à l'époque avait dit que un Stern Bervé aurait pu faire gagner ses élections au Parti travailliste, parce que la droite avait été tellement critiquée à cette époque-là, il fallait changer, quoi. Et donc, le pauvre Bill Hayden perd ça, mais devient chef de l'État, puisqu'en Australie, le chef de l'État, c'est le gouverneur général qui représente à l'époque Sa Majesté la Reine Elisabeth. Donc, Bob Hawke est pas, si vous voulez, il est pas vilain. Il a pris sa place, mais il lui a quand même donné le rôle de chef d'État un peu plus tard.
Power your campsite with Battery World's huge range of batteries, solar, chargers and more. We have everything you need to keep your coffee hot and your drinks cold. Power your camping passion with Battery World, your local battery experts. Visit us or call 13 17 60 today.
Momentum Energy is 100% owned by Hydro Tasmania, who in a single hour make enough renewable energy to fill 400,000 bathtubs with freshly popped popcorn, or spin 200 million disco balls all at once, or power an army of 10 million robot vacuums ready to take over the world. Or just help keep your leftovers cold. Either or. For a power company backed by someone who can do all that, switch to Momentum Energy. 100%.
Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et je vous propose de revenir dans quelques jours pour écouter la suite de l'histoire de Bob Hawke. Cette fois, on va s'intéresser eh bien, à sa conquête du pouvoir et surtout à son exercice du pouvoir, puisque c'est un homme dont le gouvernement va mettre en place de très nombreuses réformes sur le plan social, mais aussi et surtout d'un point de vue économique. Je vous propose donc de nous retrouver dans quelques jours pour la suite et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
Yeah, give me that happy wash.
Happy wash.
Scratch-free guarantee.
Make me feel like a limousine.
Happy wash, happy car at OTR.